Radio Okapi.
Heures à Kinshasa, 13h à Bunia. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Pollution de la rivière Kasai, la famine frappe les habitants de Bendela et Mundai dans les provinces du Kwilu et du Maïndombe. Après l'interdiction de la pêche sur la rivière Kasai qui est aussi contaminée, quelques pêcheurs récalcitrants ont été arrêtés et leurs poissons jetés dans l'eau par les services de sécurité. Sécuriser les personnes et leurs biens en Ituri, le gouvernement provincial avec l'appui de la MONUSCO organise depuis lundi l'escorte des véhicules sur les tronçons Komanda-Luna sur la route nationale numéro 4. Une mesure accueillie avec satisfaction par les chauffeurs et les passagers dont certains avaient suspendu le trafic sur cette route. Saturation de morgues et débordement des cimetières à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Face à cette situation, Cyril Moulage, administrateur général de la ville et responsable des services d'inhumation, appelle la population à observer les mesures barrières pour se protéger et protéger aussi les autres contre les coronavirus. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal est présenté par Piero Elamegi et mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Commençons d'abord avec cette information. En bref, à Kinshasa, les magasins des commerçants indo-pakistanais n'ont pas ouvert leurs portes ce matin au marché central de Kinshasa. La police a dispersé quelques quinoa qui voulaient manifester pour protester contre une information qui circulait depuis hier soir selon laquelle un autre Congolais aurait été tué en Inde. Selon les témoignages, les autres activités se déroulent normalement au marché central de Kinshasa. Entre-temps, à la 9e rue limitée, un mouvement similaire a été également observé. Selon des témoignages, un demi-conteneur des friperies aurait été pillé. La police a barricadé la route. Vous aurez d'autres informations dans nos prochaines éditions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la famine pour la population habitant les villages Bendela et Mundai, deux villages situés à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bandundu, faisant frontière entre les deux provinces du Kwilu et du Maïndombe, après l'interdiction de la pêche sur la rivière Kasai contaminée par la pollution de la rivière Chikapa à partir de l'Angola. Quelques pêcheurs récalcitrants ont été arrêtés et leurs poissons rejetés dans l'eau par les services de sécurité en présence de la délégation de l'Assemblée provinciale du Kwilu qui a effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation. Le président intérimaire de cette institution parlementaire, Dario Kimukendi, sollicite l'expertise pour déterminer les dégâts environnementaux et appelle la population à respecter les mesures prises par le gouvernement provincial du Kwilu. Le point dans ce reportage d'Irène Boma.
Après interdiction par le gouverneur de la province du Kwilu de la pêche sur la rivière Kasai dont l'eau est devenue polluée depuis l'Angola, c'est la disette qui s'installe déjà dans les villages Bendela et Mundai. Témoignage des habitants. C'est difficile. La famine est venue. Nous vivons de la pêche. Maintenant que l'eau est polluée, la vie est devenue misérable. N'ayant pour activité principale que la pêche, certains riverains violent carrément cette mesure du gouvernement provincial et continue à pêcher sur cette rivière. En présence du président intérimaire de l'Assemblée provinciale du Kwilu qui s'est rendu sur place mercredi, des poissons saisis par la Direction générale des migrations ont été reversés dans l'eau. Occasion pour le député provincial Dario Kimukedi de sensibiliser cette population.
Effectivement, nous constatons que la rivière Kasai est infectée. Alors, nous invitons toute la population du Kwilu de pouvoir s'abstenir de cette eau infectée. Ni se laver, ni consommer du poisson. Ce qu'il faut affirmer, c'est qu'il y a des dégâts environnementaux. Nous allons saisir l'autorité provinciale pour que les experts puissent au moins nous dire les dangers de contamination qu'il y a par rapport à cette eau.
Notez que ces populations riveraines appellent les autorités de la province et du pays à trouver une solution urgente à cette situation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
La société civile de la partie du sud du territoire de Lubero alerte sur les mauvaises conditions de vie des sinistres et des inondations du week-end dernier dans la région de Kamandi. C'est dans la chefferie des Batangi sur la côte ouest du lac Édouard. D'après les acteurs de la société civile, de nombreuses familles touchées sont sans assistance. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide. Grâce à Amsati pour le reportage.
D'après Amani Kinda, acteur de la société civile, plus de 1000 ménages répertoriés par la société civile ont été affectés par cette catastrophe naturelle et vivent sans abri et sans aucune assistance. Il ajoute que 85 autres familles de Ndouali qui se sont déplacées à Bouhoyo et qui sont dans des familles d'accueil éprouvent d'énormes difficultés pour trouver de quoi manger. Car les familles d'accueil elles-mêmes sont en difficulté parce que leurs champs sont inondés. On parle de plus de 300 hectares de champs inutilisables seulement dans cette entité sans compter d'autres entités voisines. Les acteurs de la société civile lancent un cri d'alarme aux autorités pour venir en aide à ces sinistrés. Pour sa part, le chef de la chefferie de Batangi indique que cette situation touche toutes les entités qui ont connu cette catastrophe. Mwamistou Kamwanaweka dit avoir enregistré jusque là 840 ménages sinistrés. Cette autorité coutumière appelle à son tour les humanitaires et les personnes de bonne volonté à venir en aide à ces personnes en situation de vulnérabilité. Jusque là, nous ne savons pas si des dispositions ont été prises au niveau de l'administration du territoire pour venir en aide aux sinistrés, car nous n'avons pas réussi à joindre le numéro 1 du territoire. Boutembo, grâce à Mouzati, Radio Kapi.
Retournons ici à Kinshasa où la manifestation de la Confédération Nationale des Tenanciers des Bars, Night Club, Discothèques et Terrasses a été étouffée par la police ce jeudi 12 août. Certains d'entre eux interpellés au niveau de la gare centrale. Selon Juvenal Djafari Kilongo, président de cette confédération, il manifestait pour réclamer la levée de la mesure relative à la COVID-19 qui, selon lui, frappe uniquement son secteur. Juvenal Djafari Kilongo l'a dit à Paul Matendo.
Depuis que les mesures ont été prises par les autorités légalement établies, il y a trois quarts de la période que nous qui sommes dans ce secteur, nous n'avons pas fonctionné. Nous réclamons la rouverture de nos activités. La deuxième chose, nous réclamons à l'État de nous indemniser. Nous sommes ici à la gare centrale, vous pouvez remarquer comment est-ce que le bus en commun. Les gens viennent entasser les uns sur les autres. Dans le grand marché central de la ville, les gens ne portent même pas le cache-nez que nous portons. Les gens s'entassent et ne respectent pas la distanciation physique. Là, on autorise. Les églises, c'est chaque après des maisons sur une avenue où il y a une église pleine de croyants, pas de distanciation physique. Nous avons perdu totalement nos capitaux et le bailleur nous met dehors dans leur maison. Il y a de ceux-là qui se sont endettés au niveau des banques et microfinances de la place, dont les échéances sont totalement expirées.
Notez que toutes les tentatives pour joindre le général Kasongo, commissaire provincial de la police, se sont révélées sans succès. Rendons-nous au Kassai-Oriental pour parler de l'inauguration ce mercredi en Mbujimayi d'un centre hospitalier de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. D'après le président provincial de la Croix-Rouge, cet établissement poursuit un double objectif, celui de permettre aux étudiants de son institut supérieur de concilier la théorie à la pratique. Ce centre offre également des soins intensifs et médicaux à la communauté à travers quelques services tels que le laboratoire et la gynécologie obstétrique. Des explications, Esther Ndalafina.
Le centre hospitalier de la Croix-Rouge, ouvert ce mercredi en Mbujimayi, a une capacité d'accueil de 50 lits. Les services tels que la pédiatrie, la chirurgie, le laboratoire, la gynécologie obstétrique, les soins de maternité, ainsi que la médecine interne homme-femme y sont organisés et bien équipés. D'après le président provincial de la Croix-Rouge, Kassai-Oriental, cet établissement poursuit un double objectif. Il va permettre dans un premier temps aux étudiants de l'Institut supérieur de la Croix-Rouge basé en Mbujimayi de concilier la théorie à la pratique. Ouvert depuis 2015, les étudiants de cette institution étaient déployés dans certains hôpitaux de la place pour la pratique de leur métier d'infirmier. Le centre va aussi offrir des soins médicaux et intensifs à plus de 500 000 habitants vivant dans le quartier périphérique tels que Lusenge, Ozana et Nkourousse dans la commune de Djoulou. Pour mettre en service ce centre, la Croix-Rouge a débloqué près de 17 000 $ provenant des frais académiques des étudiants de leur institut supérieur, affirment les autorités de ce mouvement international. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
En bref, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC en charge des opérations et de la protection est arrivé ce jeudi en début de matinée dans la ville de Beni. Monsieur Kassim Diagne, qui est à Beni pour un séjour de 48 heures, va rencontrer ce même jeudi les autorités tant civiles que militaires. Il s'agit notamment du commandant des opérations Sokola 1 et du maire de la ville avec qui il va échanger sur la problématique sécuritaire dans la région et notamment sur la protection des civils, cible des menaces et attaques des SADEF. Aussitôt arrivé, le représentant spécial adjoint a été briefé par la chef de bureau et le commandant de la FIB sur la situation socio-politique et militaire de la région. C'était au quartier général de la FIB à Mavivi. Le gouvernement provincial de l'Ituri, avec l'appui de la MONUSCO, organise depuis lundi l'escorte des véhicules sur les tronçons Komanda-Luna sur la route nationale numéro 4. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, l'objectif est de sécuriser les personnes et leurs biens contre les attaques à répétition des rebelles de ZADEF qui ont déjà incendié au moins 10 véhicules depuis un mois. Une mesure accueillie avec satisfaction par les chauffeurs et les passagers dont certains avaient suspendu leur trafic sur cette route. Isaac Rumoyope.
Des convois de véhicules sont organisés chaque jour sur les tronçons Komanda Luna au site d'Irumo. Selon les chauffeurs, 4 véhicules blindés de la MONUSCO avec des casques bleus escortent le cortège des voitures, des transports en commun et des camions de marchandises. Une Jeep de FARDC fait des patrouilles motorisées pour prévenir toute attaque de ces rebelles. Les chauffeurs s'en réjouissent. Cependant, ils demandent au gouvernement de réhabiliter cette route qui est parsemée de bourbiers. Certains camions bloquent les passages et exposent tous les convois à l'attaque des hommes armés. Le député national Jackson Aoussé qui revient de la zone salue cette initiative de l'armée de la MONUSCO, mais il demande au gouvernement de mener des opérations à profondeur dans la forêt pour sécuriser tous les villages situés le long de cet axe routier qui sont actuellement vidés de leurs habitants.
C'est une bonne mesure, mais une mesure qui est incomplète. Donc dire qu'on va juste protéger les passants, ce n'est pas suffisant. On sécurise par contre les agglomérations, le village, toute cette route nationale, et puis les passants et les domiciliés seront sécurisés.
Le porte-parole de l'armée en Iturie indique que le gouverneur de province, lors de sa mission la semaine dernière à Komanda, a rassuré la population sur sa détermination à démanteler les groupes armés qui déstabilisent cette zone, mais aussi d'engager des travaux pour l'entretien de cette route. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Nous poursuivons ce journal à l'Équateur où la journée internationale de la jeunesse n'est pas passée inaperçue. Plusieurs structures des jeunes ont saisi l'opportunité pour s'exprimer face aux enjeux sociopolitiques du moment. Ils veulent également éveiller la conscience de leurs pairs sur la propriété de leur environnement, conformément au thème de cette année, transformer le système alimentaire, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Le point avec vous, Paul-Richard Malengela.
En Mbandaka, plusieurs associations de jeunes ont été au rendez-vous ce jeudi avec leur journée internationale. Le Conseil provincial de la jeunesse CPJ Équateur a prévu la sensibilisation dans les milieux accidentés. Le président Pierre Botoul et son comité sont allés lancer à cette catégorie de jeunes un message d'auto-prise en charge.
Les jeunes puissent un peu se lancer au leadership des faits qui nous aide à être vraiment visibles, à créer des business, des petites entreprises, à créer aussi des unités de reproduction pour que nous puissions être autonomes afin d'éviter les faits de manipulation, des instrumentalisations politiques.
Sur la même lancée, le collectif des jeunes pour le développement a organisé cet avant-midi une conférence débat au Parc des jeunes sous le thème « La jeunesse de l'Équateur face aux enjeux politiques et sociaux actuels ». Honoré Tichik Mbango, administrateur du Colged, explique pourquoi ce thème.
Parce que dans notre province, nous avons fait les constats des autorités politiques de la place qui ne travaillent pas pour l'intérêt du développement de la population et de la jeunesse. C'est pour cela que nous avons discuté avec d'autres associations par rapport aux réalités actuelles qui se passent dans notre province.
Par ailleurs, les jeunes reporters de l'UNICEF dans leur émission ont prévu aussi la sensibilisation de leurs pairs sur la santé et l'environnement. Déborah Booto, journaliste et encadreuse.
De notre côté, nous avons prévu une petite émission afin de sensibiliser les pairs, donc les amis enfants qui n'étaient pas peut-être au courant de cette journée.
Bandaka, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
Lumumbeville attend toujours d'être doté d'infrastructures pour le bon fonctionnement de ses services. C'est le message que la maire de cette municipalité a apporté hier mercredi auprès du ministre congolais de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Créé par décret depuis 2013 en honneur à Patrice Emery Lumumba, Lumumbeville, qui dispose de 2 communes, dont Wembo Nyama et Owango, ne dispose pas jusque-là même de bureaux pour les services de la mairie. D'où ses plaidoyers de Ayaki Adjou Djami, maire de cette ville, de voir sa ville être doté de ses premières infrastructures de base ainsi que des matériels de travail pour la mairie. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Billy Van Lutumba.
Je viens d'être reçu par le ministre d'État à l'aménagement du territoire, comme le mot le dit, aménagement du territoire. Et vous savez que Lumumbaville, c'est une nouvelle ville qui venait d'être créée. Et cette attribution revient au ministre d'État, et je suis venu le voir à ce sujet, parce que jusque-là, rien n'est fait sur le Lumumbaville. Moi qui vous parle ici, je n'ai ni bureau, ni logement. Alors je suis venu voir son excellence, le ministre d'État. Moi, je rentre très contente parce qu'il m'a dit qu'il en fait son problème. D'ailleurs, c'est dans ses attributions. Et je pars quelque peu consolée et je peux vous dire que je peux dormir aujourd'hui parce que j'ai trouvé la voie qu'il fallait.
Et de son côté, le maître Guy Luando Mboyo, ministre, bien sûr, a rassuré son interlocutrice de l'implication du ministère de l'Aménagement du Territoire, qui a dans ses attributions la création de nouvelles villes et la modernisation des villes existantes.
Actualité internationale.
En Algérie, les incendies continuent de faire ravage. Le dernier bilan fait état des 69 morts, dont 28 militaires envoyés pour contrer la progression des flammes. 12 soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le feu est attisé par la chaleur extrême qui touche le Maghreb. C'est la Kabylie qui paye le plus lourd tribut, où plus de 70 départs de feu ont été enregistrés par les autorités. En Zambie, depuis 6 heures du matin, des longues queues se formaient déjà devant le bureau de vote de Lusaka, la capitale. Les électeurs devront désigner leur président parmi les 16 candidats en lice. Mais le duel se jouera essentiellement entre le sortant Edgar Lungu et son rival de longue date, Hakainde Hichilema, qui se présente pour la 6e fois. Depuis mai, les deux principaux protestants prétendants ont battu une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus en quête de soutien.
L'invité.
Les différentes morgues de Lubumbashi sont saturées et les cimetières débordés, constat fait par l'administrateur général de la ville et responsable des services d'inhumation. Pour Cyril Moulagi, la population est appelée à observer les mesures barrières pour se protéger et protéger aussi les autres contre le coronavirus. Cyril Moulagi s'entretient avec Jean Gando.
Cyril Moulagi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
De plus en plus, les sources médicales parlent des flambées des cas de la COVID-19 à travers la ville de Lubumbashi et que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui décèdent de cette maladie. Est-ce que les morgues de Lubumbashi sont capables d'accueillir ces différents corps qui arrivent?
Il y a beaucoup de morts, donc c'est un peu difficile à ce stade de vous dire que les morgues sont capables de réceptionner tous ces corps-là. Des fois, nous entendons que telle morgue n'est plus capable de recevoir des corps parce que les morgues sont saturées, vraiment saturées.
Quelle est la situation qui prévaut dans les différents cimetières de Lubumbashi que vous gérez?
Dans les différents cimetières, c'est vraiment de la pagaille parce que tous les jours, c'est plein. Il y a beaucoup de décès quand les morgues sont pleines, à dire par rapport au cimetière. Parce que tous ces corps qui sont dans les morgues, la finalité, c'est de les amener dans les cimetières. Ce qui fait que les cimetières sont vraiment... On est vraiment dépassé par rapport à ça. Même pour la signature des permis d'inhumation, tous les jours ici, c'est beaucoup de permis que nous signons pour les enterrements dans les différents cimetières.
Dans les différents cimetières, qu'est-ce qui est fait pour contenir ce monde?
On a pris des mesures pour dire qu'il faut seulement 20 personnes ou 50 personnes pour l'enterrement. Il faut 50 personnes. Mais nous avons limité jusqu'à 20, même à la morgue ici des cliniques, quand vous allez là-bas, on va vous dire, ce papa l'a dit, il ne reçoit que 10 personnes pour qu'on puisse prendre le corps. Mais c'est toujours plein, non? Une petite morgue qui a une petite capacité. Mais lorsque dans cette morgue, vous avez 26 corps.
Et vous les mettez comment?
Ça, c'est devenu très difficile parce qu'il y a même des gens qu'on ne sait pas bien garder dans les frigos. C'est une difficulté sérieuse.
Et au cimetière, ça se passe de quelle manière pour contenir ce monde?
Non, au cimetière, pour les contenir, ça c'est difficile. Il y a les gens qui viennent pour les enterrements et on dirait qu'ils viennent pour célébrer le 1er août. Vous voyez, le 1er août, les gens, tout le monde vient au cimetière, c'est pour voir là où on avait enterré un des membres de la famille. Mais maintenant, là, tous les jours ici, c'est le 1er août. Et les gens sont dans les cimetières pour les enterrements et non pour célébrer la mémoire de ceux-là qui nous avaient quittés. Mais ils sont là pour aller enterrer maintenant.
Mais comment est-ce que vous faites? Il n'y a pas un nombre limite des enterrements par jour dans un des cimetières où on peut enterrer juste...
Le cimetière qui a limité le nombre, d'ailleurs, on a même dit qu'il a fermé. C'est le cimetière de Kasangiri. Kasangiri a dit, je ne peux enterrer que 10 corps par jour. C'est comme ça que vous allez trouver qu'à la date d'aujourd'hui, on vous dit qu'on est en train d'enregistrer ou on est en train de délivrer les permis d'inhumation pour les gens qu'on va enterrer samedi. Si vous venez aujourd'hui pour enterrer aujourd'hui au cimetière de Kasangiri, vous n'allez pas enterrer. Parce qu'on a déjà enregistré ceux-là qu'on doit enterrer aujourd'hui. Et ceux-là qu'on enregistre aujourd'hui, c'est pour enterrer samedi. Oui, c'est déjà limité. Et nous évoluons comme ça.
Et que dire d'autres cimetières périphériques?
Les cimetières périphériques, là, les gens viennent. Vous savez, la difficulté, c'est que s'il y a des gens qui vont enterrer à Kassangui, nous estimons qu'ils ont un peu de moyens. Mais là où les gens payent 40 000 francs pour enterrer, et vous leur demandez d'attendre 7 jours pour enterrer ou 4 jours pour enterrer, ça fera un problème très sérieux.
Et quelle est la solution qui est préconisée dans l'entretemps?
La solution, c'est, ce sont des mesures qu'on doit prendre par rapport à la vie de tout un chacun. Il faut arriver à sécuriser sous le plan sanitaire toutes les personnes qui vivent avec nous. Sinon, les gens meurent tous les jours. Il y a des mesures que l'État a prises pour dire que autant de gens peuvent aller à l'enterrement pour éviter la propagation de la maladie ou de la pandémie. Ça, ça a été pris. D'ailleurs, c'est par rapport à ça que Kassangui a dit qu'il ne peut pas enterrer plus de 10 personnes. C'est un peu ça. Les gens qui gèrent les morgues ont des difficultés aujourd'hui pour refuser à ce qu'on puisse enterrer. Mais les mesures ont été prises pour demander aux gens d'essayer de voir comment se contenir et diminuer les gens qui doivent aller dans les cimetières pour aller enterrer les leurs. Nous demandons à toute la population de pouvoir essayer de gérer les mesures barrières parce que la maladie est vraie et les gens doivent se gérer mutuellement. Sinon, nous propageons la maladie nous-mêmes facilement. Nous devons éviter ça.
Sakil Moulagi, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Gan.
Ce journal était coordonné par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Irong, Jean-Claude Sial à la mise en œuvre. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, je vous retrouve tout à l'heure pour un autre bulletin d'information. Ça sera 13h, heure de Kinshasa. Mais vous pouvez écouter l'ensemble de nos informations sur www.radiocapi.net.